Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Un numéro spécial d'Ombe aujourd'hui.
Et la Dombe est connue pour ses étangs, alors comment sont-ils gérés avec la sécheresse? En invité, le département de l'Ain qui lance un nouveau livre blanc de la pisciculture et l'APED, l'association de promotion du poisson des étangs de la Dombe.
Et tout de suite, c'est l'actualité en bref.
Bourque, en bref.
Pour défendre le droit à l'avortement, une manifestation à Bourg-en-Bresse.
Le NPA, nouveau parti anticapitaliste, organise un rassemblement ce jeudi à 18h devant la préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Un événement pour rappeler l'importance du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Aux États-Unis, chaque État peut désormais décider s'il autorise ou non l'IVG. Une régression dans les droits des femmes américaines. Alors pour montrer votre soutien, c'est devant la préfecture de l'Ain à 18h ce jeudi 30 juin.
Ce week-end, c'est la fête de l'été à Bourg.
Et c'est aussi l'inauguration du Carré Amio avec un conservatoire de musique flambant neuf. On écoute Françoise Courtine, maire adjointe, sur le programme de cette journée festive.
Il y a un lieu qui va être complètement à découvrir, c'est le conservatoire d'agglomération, l'école de musique qui se tient dans l'ancien bâtiment du collège Amio et avec une façade complètement moderne, une extension sur l'avant. Avec des espaces alors, que personnellement je ne connais pas encore et que j'ai hâte de découvrir. Un verre de l'amitié offert gratuitement à tout le monde dans cet espace qui est sur la terrasse du Beaumarchais, la rue Louis Amiot. Ensuite, sur l'esplanade François Mitterrand, des expositions, on pourra lire tranquillement. La rue du 19 mars, c'est la nouvelle rue qui est entre le marché couvert et la place Bernard, avec des jeux, de la danse, de la musique, festif comme le reste de la ville. Et la rue Louis Amiot avec des concerts et une animation musicale en fin de journée. Dans le conservatoire, il y a quelque chose d'assez nouveau. En fin de journée, à la tombée de la nuit, puisqu'il y a un effet lumineux, des effets lumineux qui existent, il y aura la possibilité de s'immerger et de participer à un spectacle en bougeant à l'intérieur de ce lieu. Enfin, difficile à décrire, il faut le vivre, je pense.
La fête de l'été et l'inauguration du Carré Amio, c'est ce samedi 2 juillet et toutes les infos sont à retrouver sur www.bourg-en-bresse.fr.
Et ce samedi aussi, un festival au quartier Terre des Fleurs. Bonjour Jeanne.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Alors c'est quoi ce festival?
Le bailleur social Bourg Habitat et le théâtre de Bourg-en-Bresse proposent le samedi 2 juillet de 13h à 20h le festival Terre des Fleurs sur scène pour célébrer la rénovation du quartier. Ce projet innovant implique les habitants et les habitantes pour les valoriser. Avec pour objectif de dynamiser la vie du quartier, de développer les liens entre locataires et d'ouvrir le quartier sur le reste de la ville. Au programme de cette journée, un après-midi festif au rythme de plusieurs spectacles. Le collectif La Piraterie proposera trois créations sous forme de jeux de piste dans le quartier. Et aussi La Brouille, un spectacle de marionnettes autour du respect et de l'écologie. Au total, 5 compagnies se sont associées au projet et sont allées à la rencontre des habitants dès le mois de mai. La toute petite compagnie, Harmonie Communale, le collectif La Piraterie, la jeune compagnie Helio et la compagnie 3.6-3.4. Rendez-vous le 2 juillet de 13h à 20h au quartier Terre des Fleurs. C'est gratuit et ouvert à tous. Une buvette est prévue pour l'occasion et Radio B sera sur place. Vous pourrez découvrir les coulisses d'une émission de radio.
Merci Jeanne.
2 minutes, une actu.
Aujourd'hui, Rosalie, en stage à la radio, nous parle d'une nouvelle affaire entre Genève et la centrale du Bugey. Bonjour Rosalie.
Bonjour. Le Conseil d'État a en effet rejeté la dernière plainte de Genève contre la centrale du Bugey. La ville suisse voulait empêcher la mise en fonction de l'ICEDA, une installation de stockage des déchets radioactifs de centrales nucléaires. Le canton et la ville de Genève redoutent les dégâts que pourrait causer un accident nucléaire, lui qui a interdit le nucléaire dans sa constitution. La ville de Genève est située à environ 60 km de l'installation. 2 ans après le dépôt de la plainte, la plus haute juridiction française a déclaré, je la cite, « Cette installation n'a vocation ni à produire de l'énergie, ni à fabriquer ou enrichir des combustibles nucléaires. Les collectivités requérantes sont situées à une soixantaine de kilomètres du site d'implantation de l'installation litigieuse et en amont du Rhône. Ce n'était pas la première plainte du canton et de la ville de Genève. En 2016, déjà, ils avaient déposé plainte contre X pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et pollution des eaux, sans plus de succès. On écoute un extrait d'une interview diffusée début 2020 sur Radio B.
Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour.
Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement sous la présidence de Jacques Chirac et avocate au cabinet Huglot-Lepage, un cabinet spécialisé dans le droit de l'environnement. Et depuis 2016, vous représentez le canton et la ville de Genève contre la centrale du Bugey. Alors pourquoi la Suisse souhaite obtenir la fermeture de ce site ?
Ouais, tout simplement parce que la Suisse est extrêmement inquiète des risques que la centrale du Bugey, qui est une vieille centrale, court et donc fait courir au voisinage. Étant entendu qu'en matière nucléaire, le voisinage, ce n'est pas les 2 kilomètres autour, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et la ville de Genève n'est qu'à 80 kilomètres à vol d'oiseau de la centrale du Bugey. Donc évidemment, s'il y avait, ce que personne ne souhaite évidemment, un gros problème au Bugey, la ville de Genève serait concernée, le canton de Genève aussi, puisque ce sont les deux qui sont dans la procédure.
Vous doutez de la sécurité de cette centrale ?
Absolument. Nous avons fait faire une expertise par un expert indépendant qui est tout à fait connu, qui est Yves Marignac, qui dirige l'agence WISE, nous a fait une analyse extrêmement précise et fine des risques cette centrale courait, à la fois de risques lié à son emplacement, à la fragilité du barrage de Vouglans, toute une série de considérations liées au choix qui a été fait de ce site, mais aussi au vieillissement de l'installation et au fait que c'est une des centrales les plus à risque de France.
Avec le rejet par le Conseil d'État de sa dernière plainte, Genève devra payer 3 000 euros de frais à EDF.
Merci Rosalie. Et vous pouvez écouter l'interview complète de Corinne Lepage et notre émission spéciale sur la centrale du Bugey sur le site radio-b.fr dans la rubrique « À vous les Burgiens » à la date du 17 février 2020.
L'invité de Radio B.
Un nouveau livre blanc a été présenté par le département de l'Ain.
Et il a pour but d'aider la filière piscicole des étangs de la Dombe. C'est le troisième. Le territoire dombiste est très dépendant des aléas climatiques. Et il a besoin d'eau pour préserver la biodiversité du territoire et continuer à élever notamment les carpes de la Dombe. La région est souvent en état d'alerte sécheresse pour les eaux souterraines. Et l'eau des étangs est aussi à surveiller. Je suis allée à Chalamont, au siège de l'APED, l'association de promotion du poisson des Dombes. Pierre Larocca, président de l'APED, nous explique le fonctionnement de son association.
Le rôle de l'APED aujourd'hui, c'est la promotion du poisson et le développement de la filière piscicole dans sa globalité, c'est-à-dire de la naissance du poisson dans des écloseries jusqu'à la transformation et la mise sur le marché de produits alimentaires ou de poissons pour le réempoissonnement.
Et donc quand ça a été créé, comment ça s'est passé la création de l'APED ?
Alors l'APED a aujourd'hui 20 ans, ça a été créé par un groupe de pisciculteurs un peu chevronnés qui voulaient vraiment développer l'image un peu désuète de la carpe alors que c'est un super poisson et puis qui croyaient vraiment au développement du poisson d'eau douce, poisson d'étang.
Et donc comment ça se passe, cette gestion de tous ces étangs ? Il y en a combien ?
Alors la Dombe compte aujourd'hui environ 1200 étangs, dont environ 700, un peu plus de 700 sont exploités en pisciculture. Aujourd'hui, on a un potentiel de développement qui est important pour pouvoir proposer du poisson d'étang pour le réempoissonnement ou pour la pêche de loisirs ou pour l'alimentaire.
Voilà. Comment ça se passe au niveau annuel, le calendrier ?
Alors, c'est à la fois annuel et une gestion sur 4 années. En Dombes, on a un cahier des charges un petit peu particulier qui est issu de la tradition piscicole. C'est qu'on va faire en réalité un cycle de 4 ans où on va faire 3 années où les étangs sont en eau et pêchés chaque année et une année d'ASEC où on va travailler le sol et on va essayer de minéraliser un peu pendant une année toute la matière organique qui a pu être déposée pendant le cycle de 3 ans. Et ça permet de travailler vraiment l'étang pour que le poisson trouve à s'épanouir directement dans l'étang et notamment au niveau de la nourriture où on va essayer de maximiser les apports de l'étang en nourriture pour éviter d'avoir à nourrir tout simplement. Donc on va complémenter dans les périodes où il y a un petit peu moins de nourriture pour éviter que les poissons souffrent. Mais voilà, on essaye de travailler surtout l'étang pour que le poisson soit bien.
Quelle est la situation dans la Dombe au niveau de la sécheresse ?
Alors effectivement, aujourd'hui, on a quand même une évolution du climat qui nous impose d'être particulièrement vigilants. Donc aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, on a un gros orage, donc effectivement, on est bien content d'avoir un petit peu d'eau. Mais c'est vrai que la situation sur plusieurs années, c'est que globalement, on a un petit peu moins d'eau, donc il faut améliorer notre gestion de l'eau. Là, sur cette année particulière, on est parti sur une année où on a eu des pluviométries hivernales plutôt correctes, ce qui a permis d'avoir des étangs qui étaient pleins au moment du printemps. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas trop inquiet. On a eu un petit peu peur fin mai et début juin avec l'épisode de canicule qu'on a eu. Là, les précipitations qu'on a eues cette dernière semaine, ça nous donne un petit peu d'air. Ça a permis de faire redescendre un peu les températures de l'eau. Ça a permis de faire remonter le niveau des étangs à quelques endroits. Ça limite aussi un petit peu l'évaporation. Donc on souffle un petit peu et on espère qu'on va pouvoir passer l'été sereinement parce qu'on a eu une belle pluviométrie, ce qui devrait nous permettre d'avoir une belle année de pêche, si les conditions estivales sont clémentes avec nous.
Si on arrive à plus de sécheresse, moins de niveau l'hiver, le niveau d'eau baisse, est-ce qu'il y a des solutions auxquelles vous pensez ?
Alors aujourd'hui, on travaille pour essayer de s'acclimater et le nouveau livre blanc de la pisciculture qu'on a re-signé cette année, met l'accent sur la gestion de l'eau, qui est une des préoccupations majeures. Donc on a des axes de travail techniques qui ne sont pas encore des solutions à proprement parler parce qu'elles ne sont pas éprouvées et on a besoin d'adaptation au niveau du matériel notamment. Par exemple, pour la pêche en pleine eau, pêcher un étang qui est plein d'eau, c'est plus du tout les mêmes techniques de pêche que ce qu'on a l'habitude de faire en Dombe où on baisse le niveau d'eau pour pouvoir pêcher.
Avec ces sécheresses, donc, quelles sont les conséquences directes pour la filière et les poissons ?
Alors, les conséquences directes, ça va être que nous, on a une nécessité de nous adapter sur les techniques de pêche, c'est-à-dire qu'il va falloir généraliser, par exemple, l'aération des étangs, c'est-à-dire amener de l'oxygène directement la nuit pour les poissons, améliorer nos techniques, notamment, par exemple, quand on va complémenter au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il ne faut pas alimenter, surtout pas alimenter, parce que ça va faire une surproduction, une surconsommation d'oxygène par les poissons. Voilà. Donc ça, c'est des choses, on s'améliore là-dessus, on commence à avoir beaucoup plus de connaissances scientifiques là-dessus. Et puis voilà, après, il faut quand même aussi respecter, on est dans une technique piscicole qui est hyper respectueuse dans l'environnement. Donc dans l'environnement, il y a aussi le climat. Donc on ne peut pas non plus tout modifier. On va essayer de s'adapter aussi avec des espèces peut-être un petit peu plus acclimatées à des eaux chaudes qui craignent un petit peu moins les manques d'oxygène. Mais voilà, le but, ce n'est pas de tout révolutionner. C'est vraiment d'améliorer nos techniques piscicoles pour s'adapter au climat et pas l'inverse, quoi.
Et ces espèces, ce serait quoi ? Ce serait la fin de la carpe ?
Non. La carpe est un poisson qui résiste bien justement aux températures. Et nos carpes, particulièrement de Dombe, celles qui sont nées en Dombe, élevées en Dombe, c'est des poissons, quand ils se reproduisent, qui ont une espèce de, comme une espèce de mémoire dans leur gène, qui fait qu'elles sont beaucoup plus acclimatées à des eaux pauvres en oxygène, ce qui permet d'avoir des souches bien plus résistantes aux épisodes de canicule, à des faibles niveaux d'eau, etc. Aujourd'hui, la climatologie, on sait qu'on va devoir y faire face, mais on sait qu'on peut s'adapter. Ce à quoi on ne peut pas s'adapter aujourd'hui, c'est la prédation du cormoran, typiquement. Les espèces piscivores, aujourd'hui, c'est énorme ce que ça représente, le manque à gagner, le manque à produire, l'énergie que ça demande, c'est énorme.
Pour revenir sur ce livre blanc, comment il a été conçu ? Vous étiez dans la boucle pour le concevoir ?
Il a été vraiment co-construit avec le département, c'est-à-dire qu'on a eu des groupes de travail, le département et puis les instances, enfin tous les gens qui participent au livre blanc. Donc tout le monde a été d'abord consulté, puis ensuite il y a eu des phases de construction. Et aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de pouvoir être soutenu par le département comme ça.
Et donc concrètement, ça vous apporte quoi ce livre blanc ?
Alors, le livre blanc, on va dire, il y a plusieurs volets. Il y a un volet qui va être sur toute la partie promotion et image du poisson. Voilà. Un volet sur la partie structuration de la filière. Voilà. Et un autre volet qui est une aide à la production. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait divisé comme ça dans le livre blanc, mais voilà, en gros, les principaux axes de travail, ça va être ça. Et puis, adapter aussi les techniques piscicoles, faire évoluer les techniques piscicoles sans révolutionner, sans passer à de l'intensif, parce que le but, c'est vraiment de garder une technique piscicole qui est vraiment respectueuse de l'environnement et en adéquation avec tous les acteurs de la dombe, quoi, aussi bien technique qu'économique.
Quoi. Les petits changements concrètement pour les éleveurs, enfin toute la filière, ce serait quoi ?
Alors aujourd'hui, les changements, ça va être une professionnalisation de la filière déjà. Aujourd'hui, l'APED propose des formations pour améliorer le niveau technique des éleveurs, voilà, ce qui permet d'améliorer les rendements. On n'est pas dans une course au rendement de manière industrielle, mais aujourd'hui, voilà, le but, c'est quand même de s'améliorer pour utiliser l'eau qu'on a au mieux. Voilà. Ne pas perdre d'eau, donc ça c'est soutenu par le département aussi, le fait de réparer tout ce qui est les toux, tous les travaux sur les étangs, ça c'est soutenu par le département aussi de manière assez, assez importante, donc ça c'est super, pour éviter d'avoir des étangs qui fuient, la lutte contre les espèces invasives comme le ragondin aussi, qui va percer des trous dans les digues et rendre les étangs, ils sont plus étanches, donc c'est un peu embêtant. Voilà, donc la partie gestion de l'eau, c'est vraiment hyper important et on travaille beaucoup là-dessus. On a des programmes de formation qui vont de la connaissance de l'étang pour des nouveaux acquéreurs, par exemple, des nouveaux propriétaires qui ne connaissent pas du tout la pisciculture. Voilà, essayer de les emmener vers ça et nous aider à préserver à la fois le côté un petit peu patrimonial de la dombe, parce qu'on a quand même un bijou écologique ici qu'il faut préserver, et puis le côté économique aussi des exploitations, parce qu'on sait très bien quand même que s'il n'y a pas une rentabilité économique, finalement ça s'essouffle et après ça périclite, quoi.
Donc, dernière question plus générale, comment vous voyez l'avenir donc pour ces étangs de la Dombe, pour la PED ?
On a eu des périodes très difficiles. On a eu une année l'année dernière qui était super. On a dépassé les 1000 tonnes de poissons, donc ça faisait des années, depuis à peu près 2014, qu'on n'avait pas produit autant en Dombe. Donc ça, c'est une vraie réussite. Ça, c'est super. Et donc ça, c'est le passé, on va dire. Et puis pour l'avenir, l'avenir, c'est on a une chance aujourd'hui de pouvoir produire du poisson local. Produire un poisson qui est respectueux de l'environnement, un poisson qui a des qualités gustatives et organoleptiques exceptionnelles. Donc ce serait quand même dommage qu'on n'arrive pas à développer cette filière. Mais aujourd'hui, on est quand même vraiment très optimiste parce qu'on a des nouveaux débouchés. Il y a une vraie demande aussi sur des poissons comme ça, locaux, qui font moins de kilomètres pour venir jusqu'à nous, qui vont pas faire 5000 kilomètres pour arriver jusque dans nos assiettes, des poissons qui sont élevés dans des conditions dans des conditions assez exceptionnelles. Quand nous on fait 500, entre 500 et 1 tonne hectare, ça fait beaucoup d'eau pour chaque poisson, donc ils sont quand même très très bien, nos poissons, dans nos étangs.
Avec ce livre blanc, les exploitants et propriétaires d'étangs peuvent demander des aides pour entretenir leurs étangs. Ils font leur demande à l'APED, qui valide ou non leur dossier, puis c'est le département qui donne le dernier mot. Dans le même bâtiment que l'APED, on trouve le syndicat des exploitants des étangs de la Dombe. On écoute Stéphane Mérieux, le président du syndicat. Il est aussi exploitant piscicole à Chalamont.
Quel est le rôle de ce syndicat ?
Alors le syndicat des étangs, c'est une vieille dame, comme je l'appelle souvent, parce qu'elle a plus de 100 ans. Autrefois, c'était en effet le syndicat des propriétaires et exploitants. On a supprimé le terme de propriétaire, non pas qu'on veuille les mettre au banc, mais tout simplement c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui exploitants, qui travaillent autour de l'étang et qui ne sont pas forcément propriétaires. Donc il n'y avait pas besoin d'exclure toutes ces personnes-là. Donc aujourd'hui, c'est notre action, c'est tous les problèmes qui peuvent tourner autour de l'étang au niveau juridique, au niveau fiscal, au niveau administratif. Et puis, on a aussi une autre casquette qui est la gestion de la commission de conciliation. Lorsqu'il y a des différends entre propriétaires ou exploitants et exploitants, de façon à ce qu'on essaie de trouver des solutions pour éviter que ça passe directement au tribunal. Donc voilà, on essaie de les mettre d'accord grâce à ces commissions de conciliation. Sur la commission de conciliation, c'est le deuxième volet de notre action. Et le troisième, c'est toute la partie de gestion des nuisibles indésirables, pardon, comme le cormoran par exemple. Mais après, il y a toutes les espèces aussi de la flore que l'on peut traiter.
Et quelles sont les relations que vous avez avec la PED?
Mais on a toujours travaillé conjointement, puisqu'on a des sujets qui sont distincts l'un et l'autre. Hein. La PED, comme ils ont toujours expliqué, c'est plus la partie production-promotion. Nous, on est sur une partie qui est un petit peu différente, donc on est tout à fait complémentaires, sans se marcher dessus. Et le fait de se retrouver au sein de la maison de la pisciculture, c'est l'intérêt de tout le monde pour accélérer le travail par une meilleure communication et par une réactivité beaucoup plus importante.
Est-ce que vous avez eu des retours donc, du nouveau livre blanc qui est sorti?
Oui, en effet, c'est très profitable, ça sera très profitable pour la production au-delà de la production, c'est aussi pour la renommée de la Dombe, c'est aussi pour le maintien de l'écosystème de la Dombe. Ce n'est pas que la production, le livre blanc. C'est la production, bien évidemment, mais c'est aussi l'aide au maintien de notre territoire, de notre paysage et de notre biodiversité. Et
donc vous, personnellement, vous avez un étang?
Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, c'est pas bien sûr, mais oui, j'en ai.
Et donc, avec ce livre blanc, est-ce que vous avez sollicité une aide?
Ah, bien sûr, j'en ai suscité plusieurs, parce que en effet, il y a toujours des travaux à faire sur des étangs, il y a toujours des améliorations à faire sur des étangs. Si on veut produire plus et mieux, parce que produire plus, c'est bien, mais il faut aussi toujours produire mieux, c'est-à-dire avec un meilleur respect de l'environnement, un meilleur respect de l'animal, puisque c'est très dans la tendance actuelle, mais ce n'est pas qu'une question de mode, c'est une question aussi qu'on a tous pris conscience de ces choses-là. Donc, pour améliorer tout ça, on a besoin de faire des investissements, et c'est le livre blanc qui permet ces investissements. Ça peut être de l'investissement sur la remise en état des temps, ça peut être l'investissement sur du matériel, et c'est fondamental, et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on arrive à avoir une production qui tienne la route et qui est repartie. Sans le livre blanc, je pense, il y a plus de 10 ans, je pense que la filière aujourd'hui serait très très malade. Et l'exemple le plus flagrant, c'est de voir que toutes les régions françaises de pisciculture aujourd'hui sont très affectées, sont très malades, voire certaines ont disparu, ne sont plus piscicoles du tout, alors que la Dombe est passée en tête de la production piscicole. Donc c'est grâce au livre blanc, ne l'oublions pas.
Le troisième livre blanc va s'étendre de 2022 à 2025 avec un budget annuel d'environ 800 000 euros, financé par le département de l'Ain. On écoute Jean-Yves Flochon, le vice-président délégué à l'agriculture, à la préservation de la biodiversité et des ressources et à l'environnement au département de l'Ain.
Ce livre blanc, c'est le troisième pour la filière piscicole dans la Dombe. Expliquez-nous un peu ce qu'il contient, quels sont les différents axes.
Alors, les axes du livre blanc, ils sont tournés vers la production piscicole. C'est un engagement qui est à vocation environnementale, mais avec une visée de court terme qui est aussi économique pour encourager l'exploitation des étangs. Le premier livre blanc, il avait permis de structurer la filière pour la faire connaître et reconnaître et accompagner les acteurs dans leur démarche de production. La filière, ce sont les écloseurs. Ils sont peu nombreux aujourd'hui, hein. Il y en a deux aujourd'hui à ce jour, qui produisent les petites carpes qui vont être ensuite élevées dans les étangs, les producteurs bien sûr, puis ensuite il y a les collecteurs et les transformateurs. Le deuxième livre blanc, il avait permis de consolider les acquis de la production de la filière, de valoriser le rôle de la filière dans l'écosystème dombiste, avec effectivement des engagements financiers qui ont été importants, hein, sur 5 ans. On a investi près de 4 millions d'euros, hein, une moyenne de près de 800 000 euros par an en soutien de la filière. Donc c'est quand même des engagements financiers qui sont importants. Le troisième livre blanc, je dirais qu'on lui a donné, on a mis l'accent sur la préoccupation environnementale qui est celle de l'actualité. Sur les dernières années, j'évoquais les années 2019 et 2020, nous avons bien vu que la question première, c'était bien celle du changement climatique et de la gestion et de l'usage de la ressource en eau. Et donc c'est ces sujets-là que nous allons travailler plus particulièrement avec les exploitants et les producteurs. Alors on a plusieurs pistes de travail hein, avec la création de ce qu'on appelle des zones de confort dans les étangs. En clair, il faut approfondir certains secteurs des étangs pour qu'ils puissent passer les moments difficiles où on manque d'eau. Nous avons aussi un travail à parfaire sur la cartographie des étangs et des chaînes d'étangs. Vous savez que l'eau, elle va d'un étang à l'autre en descendant, et parfois il y a une mauvaise circulation qui se fait en fonction des propriétaires. Donc il faut qu'on accompagne cette meilleure connaissance. Et puis il y a des expérimentations pour encourager l'innovation. On a notamment donc un sujet que l'on va travailler avec la filière piscicole, qui va consister à innover dans le mode de pêche. Jusque-là, donc les pêches se font, on vide l'étang, on garde une petite partie en eau, et dans cette partie en eau, on prélève les carpes. Et l'idée, ce serait de pêcher les étangs sans les vider. Donc voilà, c'est quelque chose d'expérimental qui vise là encore à économiser l'eau, qui est vraiment le sujet de préoccupation première.
La Dombe est aussi candidate au label Ramsar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Alors, le label Ramsar, c'est aujourd'hui un label mondial, hein, international, qui tient son nom d'une ville de Turquie, dans laquelle où s'étaient réunis un certain nombre de spécialistes des écosystèmes et des milieux humides, et qui labellise un certain nombre d'écosystèmes, je dirais, de par le monde. Nous recevons vendredi prochain une délégation des spécialistes de Ramsar dans le département, donc le 30 et le 1er juillet, pour leur présenter les spécificités de la Dombe et faire en sorte que l'on puisse effectivement donc obtenir ce label qui sera ensuite un fil conducteur qui dépasse les milieux piscicoles. L'idée, c'est bien de faire en sorte que on labellise un côté, un écosystème, et qui mérite une reconnaissance qui soit celle de l'ensemble des populations, des collectivités, qui montrent tous leur intérêt à la spécificité de ce beau territoire.
Et donc ce label, si jamais la Dombe peut l'avoir, ça apporte quoi concrètement au territoire ?
Il apportera une notoriété et une responsabilité supplémentaire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'écosystème, les étangs, il n'y en ait plus qui s'arrêtent. Au fil des années, des décennies, il y a de nombreux étangs hein, qui avaient été mis en culture et dont la mise en eau a été abandonnée. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce phénomène, qu'il soit définitivement enrayé et que la notoriété dombiste puisse aider à la valorisation des produits piscicoles de la Dombe, puisse aider aussi à une démarche touristique particulière liée à cette spécificité dombiste. On a la chance d'avoir le parc des oiseaux au milieu de la Dombe, mais au-delà du parc des oiseaux, il faut que le patrimoine dombiste soit mis en valeur sur le plan départemental, certes, mais aussi régional et national.
Et ben, merci Jean-Yves Flouchon. Je rappelle que vous êtes vice-président délégué à l'agriculture, à la préservation de la biodiversité et des ressources et à l'environnement au département de l'Ain.
C'est moi qui vous remercie.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Et pour diversifier la filière piscicole, en 2015, l'APED lance le cuir de carpe de la Dombe. Des étuis à couteau, des porte-clés, des bijoux en peau de carpe, et aujourd'hui, on trouve même des baskets.
Bonjour, donc moi c'est Cécile Francescato, je suis apprentie responsable du cuir de carpe de Dombe à l'APED, donc l'association piscicole au niveau de l'Ain. Et notre objectif avec le cuir de carpe de Dombe, c'est de recycler le coproduit de la pisciculture, donc la peau de carpe, et pour avoir une revalorisation de ce poisson qui est vraiment très présent dans les étangs. Il y a à peu près 60% de carpes dans les étangs de la Dombe. Ce qui est important de retenir, hein, c'est que vraiment les carpes ne sont pas élevées pour leur peau. Elles sont élevées pour leur chair, qui est consommée pour l'alimentation humaine.
Et ces différents produits qui sont faits avec du cuir de carpe, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques produits phares un peu ?
Oui, alors, donc les produits phares. Alors bien sûr, on a la manchette. La manchette, ça fait depuis 2015 qu'elle existe en format plus fin. Notamment en turquoise. Alors le turquoise, c'est notre couleur signature, on va dire, depuis 2015. On l'a fait chaque année, que ce soit l'été et l'hiver, c'est celle qu'on vend le plus. Les gens me disent à chaque fois, oh, wow, c'est incroyable, elle est magnifique cette couleur. Ensuite, on l'a du coup déclinée en version un peu plus large, donc on l'appelle la manchette majesté, et qui est évidemment aussi disponible en turquoise. On a maintenant le orange vitaminé qu'on a sorti l'été dernier et qui, on pensait que ce serait que pour l'été. En fait, l'hiver, c'est vraiment la seconde couleur qu'on vend aussi également le plus. Comme produit phare, bah, j'ai envie de dire quand même la basket, hein, évidemment. Même si, voilà, même si on les a pas depuis 2015, c'est vraiment quelque chose qui plaît. Bon, alors, on ne penserait pas, mais il y a vraiment beaucoup d'étapes pour pouvoir arriver au produit que vous avez devant vous. Alors, au tout début, bon, bah, alors, la carpe est dans les étangs de la Dombe. Ensuite, on a des collecteurs, donc c'est une société qui vient transporter les poissons de l'étang aux transformateurs. Chez les transformateurs, donc, qui s'occupent de lever les filets pour l'alimentaire, ils vont aussi passer la peau dans une espèce de machine qui va dérouler la peau du poisson. Voilà. À partir de là, ils vont faire des piles de peau. Ils vont les mettre en surgélation par bloc de 40. Ils vont les stocker pendant un an en surgélation comme ça, le temps de rassembler suffisamment de peau pour que nous, on puisse les envoyer ensuite chez le tanneur. Maintenant, on est content de travailler avec trois jeunes qui ont monté leur boîte Ichthyos, donc ça veut dire poisson en grec, qui sont vraiment spécialisés en plus dans le tannage de poissons. Déjà, trouver des tanneurs en France, c'est compliqué, mais en plus, des tanneurs de poissons, ça court pas les rues. et donc, ils sont à Saint-Fond, juste à côté de Lyon, donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et en plus, ils travaillent, c'est du tannage végétal, donc c'est vraiment naturel, c'est avec des écorces de bois broyées, vraiment des choses naturelles. Une fois qu'on a nos peaux qui sont donc bien tannées et colorées avec la couleur qu'on leur a demandé, nous on récupère les peaux et on va les transmettre à nos maroquiniers et artisans qui vont travailler le cuir et fabriquer les objets. Alors nous, on a plusieurs artisans qui travaillent pour nos collections. On a par exemple Atelier Lyonnais de Maroquinerie qui travaille à Rieux-la-Pape, qui va nous faire notamment des petits porte-clés, des petites boucles d'oreilles, des colliers. On a Amarangé qui travaille à Meximieux, c'est une artisane d'art qui est un peu ambassadrice de la marque sur la Dombe, parce qu'elle a aussi sa propre collection avec du cuir de carpe, et également elle travaille pour nos collections avec le cuir de carpe également. On a Sylvie Berry, Carole Main, qui sont aussi des artisanes de Dombe. Et puis pour la maroquinerie, les grosses pièces type portefeuille, c'est pas mal fait à La Fabrique, c'est à Groyer, dans la capitale de la maroquinerie française, un peu plus dans le sud. L'été dernier, on a sorti les baskets, donc vous en avez certainement déjà entendu parler, on a été vraiment bien médiatisés là-dessus. Les baskets sont fabriquées, enfin elles sont dessinées à Mérignac, conçues à Mérignac, c'est à côté de Bordeaux. Et ensuite elles sont montées au Portugal, donc quand on sait qu'il y a plus de 90% de la production de baskets en France, enfin qui est commercialisée en France, qui est en fait fabriquée en Asie, et ça reste quand même de la basket locale, néanmoins voilà, on a un projet d'essayer de trouver aussi des personnes qui pourraient nous les faire en France, donc c'était une première étape.
À quel moment vous avez eu cette idée de recycler les peaux de carpe?
Et alors en 2015, c'est l'ancienne directrice de la PED, Nathalie Chouzeville, qui a eu entendu qu'on faisait du cuir avec de la peau de saumon. Et elle s'est dit, ah bah nous, le poisson c'est pas ce qui manque, hein. Donc ça peut être un super projet, un beau projet de développement, et puis de se dire aussi que la revalorisation de ce poisson, à terme, ça peut permettre de financer des projets pour les étangs, les pisciculteurs, et puis toute la filière, les transformateurs, etc.
Donc en quoi cette invention du cuir de carpe ici dans la Dombe aide toute la filière en fait?
Ouais. Alors c'est vraiment une bonne question. Donc les objectifs de la marque du cuir de carpe de Dombe, ils sont vraiment multiples. Tout d'abord, en fait, c'est vraiment s'inscrire dans un objectif de promotion de la filière piscicole dombiste, de faire parler de la Dombe et d'attirer en fait les regards, d'être une vitrine sur la Dombe et sur la filière piscicole grâce au cuir de carpe de Dombe. Nous, par exemple, on a lancé un site de vente en ligne avec le cuir de carpe de Dombe en septembre. On a déjà 2000 visiteurs par jour, donc ça fait vraiment connaître la marque et connaître la filière piscicole en fait. Ensuite, ça permet aussi de donner une image positive à la filière parce qu'on démontre notre volonté de bien faire et de réduire notamment les déchets de la pisciculture avec une revalorisation. Ça permet aussi de rendre un peu ces lettres de noblesse à la transformation alimentaire. On a l'image qui peut être un peu classique, traditionnelle de la pisciculture, des productions alimentaires de la carpe, et on va donner un peu un aspect plus moderne, plus dans l'air du temps, avec le cuir et puis... Voilà, que vraiment ça, la dombe parle à tout le monde. L'activité cuir, c'est aussi un soutien économique à la filière, parce que la carpe, c'est un des poissons c'est un poisson qui a un faible rendement au filet. C'est-à-dire qu'il y a 30 à 40% de la carpe qui va se consommer, et le reste, malheureusement, ne peut pas être consommé. Donc, on va revaloriser une partie de la carpe en faisant du cuir. Et puis il faut savoir aussi qu'en France, dans la filière cuir traditionnelle, les peaux ne sont pas achetées aux éleveurs. Et nous, en fait, on va acheter la peau au transformateur. Donc on va vraiment donner une valorisation économique au niveau de la filière piscicole.
Si vous êtes intéressé par des objets en cuir de carpe, vous pouvez aller sur le site internet www.cuirdecarpededombe.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et merci à Rosalie.
On se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM et en attendant, belle semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois, donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.